paix. Il est 7 heures. Le journal de 7 heures. Jean-Claude Mabéa.
Madame, messieurs, bonjour et bienvenue à ce premier point sur l'actualité de ce vendredi 3 mai 2024 sur Radio de la Paix. À la une de cette édition, vie des institutions, les membres du Parlement ivoirien ont été outillés hier sur le système international de prévention de la torture par le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, relativement au protocole facultatif à la Convention de l'ONU contre la torture. C'était au cours d'un atelier à l'Assemblée nationale. Affaire MR emprisonné. Que dit la loi ivoirienne lorsqu'un maire commet une infraction? Est-il couvert par une immunité? Dans quelques instants, les éclairages d'un spécialiste du droit administratif. En page internationale, la situation politique et sécuritaire au Burkina Faso inquiète la coalition de l'Afrique francophone pour la CPI qui demande d'urgence des enquêtes et des poursuites contre les auteurs allégués de ces crimes. Vous entendrez son coordonnateur Ali Ouattara. Après la revue des titres de Jean-Claude Comé, Junior Cardin recevra dans le cadre de l'invité de la rédaction le directeur de la prévention et de la promotion de la santé et de la sécurité au travail à la CNPS. Professeur Yeboué Kwame Brou-Yves reviendra sur la célébration couplée de la 28e journée africaine de la prévention des risques professionnels et la 22e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail qui s'est tenue du 25 au 27 avril 2024 à Abidjan, Boaké et à San Pedro. Voilà pour le sommaire. Vie des institutions. Les membres du Parlement ivoirien veulent s'approprier le protocole facultatif à la Convention de l'ONU contre la torture. Le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, a donc initié à leur endroit un atelier hier, jeudi 2 mai 2024, à l'Assemblée nationale. Junior Cardin pour les détails.
Ils sont 25 députés et 15 sénateurs à avoir participé à cet atelier d'appropriation en vue de la mise en place d'un mécanisme national de prévention de la torture. La présidente du CNDH, Conseil national des droits de l'homme, Namizata Sangaré, situe le cadre.
Notre pays a posé un autre acte fort en ratifiant le 1er mars 2023 le protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et haute peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant et en s'adossant à l'article 5 de la Constitution ivoirienne qui dispose. Et je cite, la torture physique ou morale, les traitements inhumains, cruels, dégradants et humiliants, les violences physiques sont interdits.
Ainsi, la Côte d'Ivoire devrait, à travers cette ratification, renforcer les mesures concrètes pour protéger les personnes privées de liberté. Mais le délai pour la mise en place du mécanisme national de prévention de la torture a expiré depuis le 31 mars 2024.
Il était donc nécessaire d'initier cet atelier d'appropriation pour outiller les membres du Parlement sur le système international de prévention de la torture, leur présenter les enjeux et les obligations consécutives à l'adhésion de l'OPCAT.
Au nom du président de l'Assemblée nationale, le vice-président Sidiki Konaté a relevé que les parlementaires sont prêts pour la mission.
La mise en place du mécanisme national de prévention de la torture est devenue une nécessité et une urgence pour notre pays. L'initiative du présent atelier est louable. Faire en sorte que le député puisse être mis en mission.
Il faut noter que l'implication des parlementaires est attendue dans le plaidoyer pour la mise en place du mécanisme national de prévention de la torture en Côte d'Ivoire.
Nous le disions en titre, affaire arrestation du maire de la commune de Bangolo, Arsène Ga. Le spécialiste du droit administratif, docteur Landry Amoussou, se veut, on ne peut plus clair, le maire est un élu qui ne jouit d'aucune immunité. Il peut être poursuivi et arrêté s'il commet une infraction. Nous l'écoutons.
Il faut d'abord faire cette distinction qui est fondamentale entre l'immunité et puis l'impunité. Ce n'est pas parce qu'on est un élu qu'on va commettre des infractions et se sentir protégé comme une sorte de permis de commettre des infractions. Non. Donc, la loi a distingué certaines autorités qui vont bénéficier d'une immunité durant la durée de leur mandat et à la fin de ce mandat, ils seront poursuivis. Ça, il faut que ce soit clair. Et dans ces immunités, malheureusement, le maire ne figure pas dans les immunités qui ont été consacrées par la loi. Et même le député qui a une certaine immunité dans l'exercice de son mandat, ça ne veut pas dire que cette immunité ne va pas être levée en cas de flagrant délit. Attention.
Et cette immunité voilà. Peut être levée aussi à la fin de son mandat.
elle est automatiquement levée à la fin de son mandat, automatiquement.
Donc dans le cas du maire, on peut l'arrêter et le poursuivre.
Bien sûr, n'oubliez pas qu'on peut même poursuivre un député. La loi, elle est claire là-dessus. En cas de flagrant délit, il est poursuivi. Donc si on peut poursuivre un député, à plus forte raison, le maire.
Docteur Landré Amoussou, spécialiste du droit administratif, était interrogé par Constant Maïli. Le ministre délégué auprès du ministre des Transports en charge des affaires maritimes, Céré Do-Célestin, a entamé depuis quelques semaines une tournée dans les arrondissements maritimes sous sa responsabilité en vue de s'imprégner des réalités que vivent ces hommes. Il était le samedi 28 avril dernier dans la commune d'Adiaké où il s'est entretenu avec ces hommes en présence des autorités politiques et administratives de la ville. Et les détails avec vous, Jean-Mylène Bitti.
Lors de cette cérémonie à la mairie d'Adiaké, colonel Kelly Moïse, chef d'arrondissement du département d'Adiaké, a salué le retour du ministre Céré Do-Célestin aux affaires maritimes.
Votre retour à la tête des affaires maritimes nous donne l'occasion de continuer votre gigantesque programme d'assainissement du secteur maritime entamé en 2021. Je suis persuadé qu'avec votre soutien, l'atteinte des objectifs qui nous sont assignés, notamment le développement des affaires maritimes, sera effective.
Céré Do-Célestin, ministre délégué auprès du ministre des Transports chargé des Affaires maritimes, a exposé ses ambitions pour le secteur maritime ivoirien.
Après ma prise de service et les démarches liées à l'installation de mon cabinet, j'ai voulu me rendre compte des réalités du terrain, faire une évaluation de la situation après les premiers actes que j'ai posés en 2021. J'ai en effet à cœur d'œuvrer et accroître les performances des affaires maritimes ivoiriennes.
Dans le cadre de cette tournée de prise de contact, après l'étape d'Adiaké, le ministre Céré Do-Célestin et sa délégation étaient le mardi 30 avril dans la commune de Benjerville pour une rencontre avec l'arrondissement de la dite commune.
On s'intéresse à présent à la célébration de la fête du travail 2024 dans la région de l'Ifou qui a eu lieu précisément hier dans l'une des salles de conférence de la préfecture de région de Daoukro. Plusieurs points de revendication ont été abordés par les centrales syndicales au niveau local avec en tête de priorité la cherté de la vie, la pénurie d'eau et les coupures intempestives de l'électricité qui causent beaucoup de désagréments aux populations. On en sait un peu plus avec notre correspondant sur place, François Kra.
Écoutons d'abord la directrice régionale du travail de l'IFU, Andy Aishata.
Il faut retenir qu'il y a eu quelques avancées quand même. Chaque travailleur indépendant, même s'il n'est pas dans une structure formelle, peut se déclarer lui-même. Pour le secteur public, il y a aussi la retraite complémentaire. En fin de vie professionnelle, le fonctionnaire qui y a souscrit peut bénéficier d'une deuxième aide en plus de la pension normale. Donc c'est déjà une avancée notable en matière d'amélioration des conditions de vie de travail.
Mais il reste beaucoup à faire. Selon les représentants des fêtières syndicales locales, Yao Raphaël, Confédération Espoir.
Les travailleuses et travailleurs ne sont pas en reste. Ils doivent faire face à une augmentation anarchique et incontrôlée des prix des loyers. Il est impossible de bien se nourrir. Il faut débourser au minimum entre 5, 6 et 7 000 francs CFA pour nourrir une famille de 5 à 6 personnes par jour. Tant le marché est cher.
Les coupures intempestives d'eau et d'électricité préoccupent au plus haut niveau le président régional de la plateforme nationale, Degba Gaëtan.
Nous, habitants de l'Ifou, sommes quelquefois obligés de veiller des jours pour un hypothétique saut d'eau. Cela affecte notre rendement au travail. Pour l'électricité, nous ne portons plus les appareils hors d'usage pour cause de coupures intempestives.
Le préfet de l'Ifou, Dike Claude Grémond, rassure.
Ne doutez pas un seul instant. Ces doléances seront transmises fidèlement.
Une cérémonie sobre en raison des obsèques de l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié, prévue du 19 mai au 2 juin 2024. François Kra Daoukro, Radio de la Paix.
Dans sa volonté de rapprocher les populations des centres de santé, la mairie d'Odiéné a doté récemment le quartier RM Ankono d'une infrastructure sanitaire d'un montant global d'un peu plus de 100 millions de francs CFA. Après cet ouvrage, 12 autres centres de santé devraient suivre, nous dit Bakary Touré Labasse, notre correspondant dans la région du Kabadougou.
Dans sa volonté d'assurer un bien-être social à ses administrés, la mairie d'Odiéné vient de doter le quartier RM Ankono d'un centre de santé. Touré Nassénéba, maire d'Odiéné, par ailleurs ministre de la Femme, de la Famille et de l'enfant.
Ce centre de santé, maternité et dispensaire inclus ensemble, avec un équipement d'une valeur de plus de 68 millions de francs CFA, et tout ce dont les femmes pourraient avoir besoin quand elles viennent donner la vie.
En Croix-Touré-Nassonerba, en matière d'infrastructures sanitaires, aucun quartier ne sera laissé pour compte.
Un centre de santé pour deux quartiers et 24 quartiers, c'est 12 centres de santé. Alors ça, c'est un des défis de la municipalité.
Remakono est ce quartier populaire au sein duquel les femmes sont réputées d'être réfractaires à l'idée de fréquenter les centres de santé. Interrogé sur la question, le chef du quartier est réagi.
Camarade Balmana, vraiment, on est content, très très content. Oui. Oui. Ah bon, quand vous êtes à droite,
voilà.
Donc comment? Ils vont à l'hôpital. Ils vont à l'hôpital. Ce que tu as dit là, bon, on va voir quand même. On va suivre ça. On va suivre.
Ce centre de proximité vient à point nommé, soutient Dr Abdou Frédéric, un directeur régional de la santé du Cap-Badogo.
Ça va nous permettre véritablement d'améliorer les éducateurs et surtout les prestations prénatales et les prestations
natales. Bakary Touré Labas, au Diéné, Radio de la Paix.
En page internationale, dans un courrier transmis à la Haye, à l'Union africaine et aux Nations unies, la coalition de l'Afrique francophone pour la CPI interpelle le procureur de la Cour pénale internationale sur les massacres des civils au Burkina Faso. Le coordonnateur des coalitions francophones pour l'Afrique de la CPI demande d'urgence des enquêtes et des poursuites contre les auteurs allégués de ces crimes. On écoute Ali Ouattara.
Ces violations des droits humains ont été documentées par les Nations Unies, par les organisations comme Amnesty International, par Human Rights Watch et j'en passe. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a le massacre de Yurgu le 1er janvier 2019. Il y a également les attaques du 8 mars 2020 dans la province de Yetenga. Il y a plusieurs enrôlements dans les cas de défenseurs des droits humains. Le plus célèbre, c'est M. Daouda Diallo, le 1er décembre 2023. Il y a également un enrôlement porté pour les personnes qui osent s'exprimer publiquement au Burkina Faso. Ces personnes-là sont arrêtées. On a par exemple le cas de l'ancien ministre des Affaires étrangères qui a été enrôlé de force en envoyé sur le front. Et ça, c'est le 24 décembre 2023. Plusieurs membres de la société civile, des journalistes, qui ont été arrêtés depuis novembre 2023. Et dernièrement, ce qui nous a beaucoup choqué, c'est les massacres de Nondin et de Soro qui ont eu lieu le 25 février 2024. Donc, face à tout cela, il est quand même urgent qu'il puisse avoir une enquête qui soit ouverte pour que les autorités puissent répondre devant la justice. Nous ne comprenons pas trop les silences actuelles de la CPI. Nous ne comprenons pas également les silences de l'Union africaine et des Nations unies. Donc, nous nous interpellons pour que ces défenses futures-là puissent s'approprier de ce dossier-là pour que vraiment les victimes ne soient pas délaissées pour compte. Ces éléments qui vont amener à demander à ce que le procureur puisse s'auto-saisir du cas de Burkina Faso, qu'on ne soit pas dans un cycle d'impunité sans fin.
C'était à l'instant le coordonnateur de la coalition de l'Afrique francophone pour la CPI, la Cour pénale internationale, Ali Ouattara. Nous passons directement à la revue des titres des journaux parus ce jour et c'est présenté aujourd'hui par Jean-Claude Comé. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Jean-Claude Mabéa, bonjour à tous. Le potentiel minier ivoirien se révèle chaque jour un peu plus avec de nouvelles découvertes de gisements et c'est le cas avec la découverte selon Fraternité Matin du plus grand gisement d'or de la Côte d'Ivoire et qui a un potentiel d'au moins 155 tonnes d'or à extraire dans ce gisement de classe mondiale à Kani et Diara. Et c'est l'information communiquée hier au chef de l'État ivoirien par le PDG du groupe Montage Gold, rapporte Le Patriote, qui souligne un investissement de 400 milliards de francs CFA par l'entreprise pour 4500 emplois directs et indirects à créer, précise aussi Le Matin. Le confrère qui fait remarquer aussi que le prix du cacao commence à chuter à l'international et un tantinet provocateur se demande que propose maintenant l'opposition si prolixe hier. Le Patriote en boîte le pas à son confrère avec ce titre. Le prix du cacao en chute libre à l'international depuis le 30 avril. Que dit Gbagbo ? L'avenir conclut pour dire que le marché du cacao donne raison au gouvernement avec cette chute de 25% à l'international. De Gbagbo, Laurent, le leader du PPACI, le nouveau réveil en parle également, mais pour insister sur le fait qu'il mène présentement le combat de la résilience de toute l'opposition qui devrait le soutenir dans ce premier combat face au régime RHDP, un parti qui serait, selon la voix originale, sonnée et désillusionné après la déclaration du candidat de l'opposition, donc candidature de Gbagbo. Le temps ne dit pas le contraire par ce titre. Meeting à Agboville, candidature en 2025. Comment Gbagbo hante le RHDP, un parti qui, à en croire le matin, met le turbo avant 2025 à travers son opération et militant. Fonction publique, ils sont 543 futurs fonctionnaires de l'École nationale d'administration, l'ENA, qui sont sortis officiellement hier, informe l'Inter. Ces élèves de l'ENA qui ont eu pour parrain le Premier ministre Begré Mambé lors d'une cérémonie hier, constitue la 58e promotion de l'école. 543 élèves de la promotion Begré Mambé prêts pour une administration disciplinée, écrit Fraternité Matin. Mambé exhorte ses filleuls à être des artisans d'une administration excellente, annonce l'essor. Merci et bonne journée à tous.
Merci à vous Jean-Claude Comé. Je rappelle que vous reviendrez dans ce studio vers la fin de l'édition de 8h. Nous arrivons maintenant à l'invité de la rédaction. Notre invité de ce jour est le directeur de la prévention et de la promotion de la santé et de la sécurité au travail à la CNPS. Les 25, 26 et 27 avril 2024, la Caisse nationale de prévention et de prévoyance sociale a organisé de façon couplée la 28e journée africaine de la prévention des risques professionnels et la 22e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. À la fin des travaux, le professeur Yeboué Kwame Brou-Yves s'est prêté aux questions de Junior Cardin. Entretien.
Bonjour professeur.
Bonjour monsieur.
Professeur, il s'agit de la 28e journée africaine de la prévention des risques professionnels et de la 22e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Et ces journées donc s'achèvent maintenant. Qu'est-ce qu'on peut retenir?
On peut retenir qu'il y a des entreprises en Côte d'Ivoire qui, malgré les efforts en matière de prévention, ont des taux d'accident du travail qui sont élevés. Et donc, il est important que nous puissions avoir des interventions communes au niveau de tous les acteurs en charge des questions de santé et sécurité au travail pour pouvoir faire baisser ces taux d'accident du travail. Car comme vous le savez, les accidents entraînent une souffrance pour le travailleur, c'est une perte pour la société, pour la Caisse nationale de prévoyance sociale. Et surtout, il faut faire des efforts pour que nos concitoyens vivent mieux en situation de travail. Et surtout dans les entreprises qui commettent le plus d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
On sait que l'année dernière, la 27e journée a produit 5 recommandations et une seule a été exécutée. Qu'est-ce qui explique cela?
Il faut dire que ce qui se passait, c'est qu'il arrivait que les structures qui viennent assister aux journées africaines de prévention ne se sentent pas forcément concernées par la correction des situations, la mise en œuvre des recommandations. Cela fait que cette année, nous avons adressé ces recommandations à des structures particulières. Et nous allons, au cours de l'année, mener des activités afin de noter l'évolution qui est réalisée par rapport aux différents recommandations.
Parlant des recommandations de la 28e édition, c'est-à-dire donc cette année, il y a deux principalement, adressées au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale et puis à l'attention des organismes de contrôle. Est-ce que c'est parce que l'année dernière, il y a eu quelques petits problèmes dans l'exécution que cette année, c'est seulement deux recommandations?
Oui, parce que dans tous les cas, nous pensons qu'il ne faut pas émettre un nombre pléthorique de recommandations et ne pas les appliquer. Alors que là, lorsque nous choisissons deux recommandations qui sont essentielles, nous pensons pouvoir les réaliser au cours de l'année.
Est-ce qu'on peut avoir une idée des recommandations de cette année?
Il y a eu deux recommandations, mais ces deux recommandations portent toujours sur les questions de contrôle au sein des entreprises. Pour mieux contrôler, il importe qu'il y ait une synergie d'action entre les différentes structures dans une région géographique donnée. Il ne faudrait pas que, par exemple, la direction de la prévention et de la promotion de la santé et sécurité au travail pense seule à la réduction des risques. Il faudrait qu'il y ait une rencontre de l'ensemble des structures en charge du contrôle et qu'ensemble, on puisse décider de la conduite à tenir pour pouvoir réduire les risques professionnels dans notre pays. Et la deuxième recommandation porte sur les interventions conjointes. D'un côté, se rassembler pour réfléchir ensemble et agir. Et puis, lorsqu'on part sur le terrain, il faut effectuer des interventions conjointes. C'est-à-dire que lorsque l'on part, par exemple, avec l'inspection du travail a des pouvoirs que nous n'avons pas. Donc, nous allons capitaliser sur ces pouvoirs. Nous partons avec la police nationale ou l'office de protection civile. Ces structures ont des pouvoirs que nous n'avons pas. Il en va de même d'autres structures telles que le SIAPOL, la direction de la santé et sécurité sécurité au travail, etc. Il s'agit donc en fait de potentialiser nos forces pour pouvoir mieux agir en milieu de travail.
Au cours de ces trois journées, la situation des travailleurs indépendants a focalisé pratiquement les débats. Est-ce que ces travailleurs indépendants pourront tout aussi bénéficier des réflexions liées donc à la sécurité et la santé au travail?
Alors, il faut dire que les travailleurs indépendants ou les travailleurs de l'économie informelle sont aujourd'hui à la base des réflexions dans les pays africains. Parce que nous avons 90 à 99% des travailleurs qui relèvent de l'économie informelle. Et donc, si nous nous contentons d'un million de travailleurs du secteur formel, c'est comme si nous jetons une goutte d'eau dans la mer. Donc, il faut que nous nous intéressions à eux. Et Dieu merci, la Caisse nationale de prévoyance sociale a créé le régime social des travailleurs indépendants. À partir de là, ces travailleurs indépendants sont affiliés à la CNPS et vont bénéficier de toutes les prestations que la CNPS peut mettre à la disposition de ses partenaires. Et donc, en matière de santé et sécurité au travail, nous avons aussi élaboré une stratégie et nous allons, au cours de l'année, mettre en œuvre cette stratégie.
Professeur, vos satisfactions au sortir donc de cette 28e journée?
La grande satisfaction, c'est que nous tendons à passer la main à des structures de moindre importance, voire même aux entreprises. Et pour cela, cette année, de façon concomitante, nous avons organisé les journées de la prévention à Abidjan, à San Pedro et à Boaké. Ce qui fait en tout près de 800 personnes qui ont été concernées. Nous estimons que, à l'échelle locale, si les recommandations sont appliquées, nous arriverons à de meilleurs résultats. Et si plus tard, nous passons la main aux entreprises, ça sera encore meilleur parce que cela prouvera l'engagement des entreprises en matière de lutte contre les accidents du travail et maladies professionnelles.
Professeur Yeboué, merci beaucoup.
Je vous remercie.
Invité de la rédaction, le directeur de la prévention et de la promotion de la santé et de la sécurité au travail à la CNPS, professeur Yeboué Kwame Brou Yves, répondait aux questions de Junior Cardin, entretien à réécouter dans l'édition de midi. Ainsi se referme ce journal, le rappel de l'essentiel. Vie des institutions, les parlementaires ivoiriens ont été outillés hier sur le système international de prévention de la torture par le CNDH. C'était au cours d'un atelier à l'Assemblée nationale. Affaire un maire emprisonné, que dit la loi ivoirienne lorsqu'un maire commet une infraction? Est-il couvert par une immunité? Vous avez eu les éclairages d'un spécialiste du droit administratif en la personne du docteur Landry Amoussou. C'est la fin de ce 7h. Merci de votre aimable attention. Rendez-vous à 8h pour une nouvelle édition de l'actualité sur Radio de la Paix.
Radio de la Paix, la voix de la diversité. Thank you.